Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant en passant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part à la fin du 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer un cinéaste italien que beaucoup ont considéré avec un mépris sans doute bien injuste comme une sorte de sous-Luchino Visconti. En l'espèce, Mauro Bolognini, né à Pistoia, j'avoue que je ne sais pas où c'est, le 28 juin 1922 est mort à Rome, là je vois, le 14 mai 2001, et qui, entre ses 80 années, eh bien, a eu une carrière assez riche et assez abondante, une filmographie assez abondante, au moins dans les années 50 à 70. Mauro Bolognini, je vais vous la faire courte, étudie au fameux Centro Sperimentale de Cinematografica de Rome, où beaucoup de réalisateurs, scénaristes, etc., italiens ont fait leur classe. Et puis, à partir de 1948, eh bien, comme on le faisait à l'époque, il est d'abord assistant réalisateur pour apprendre les rudiments du métier, essentiellement d'un réalisateur italien peu connu de ce côté-ci des Alpes, et même peu réputé de l'autre côté des Alpes, il faut bien le dire. En l'espèce, Luigi Zampa, avec lequel il tourne des films comme Les années difficiles ou Pour l'amour du ciel, et on le voit même collaborer avec des cinéastes français. Yves Allégret en 1952 pour Né de cuir, et Jean Delannoy en 1952 toujours pour La minute de vérité, dans lequel, me semble-t-il, mais pardonnez-moi si je me trompe, il y avait Michel Morgan. À propos de Belle Femme, eh bien en 1953, pour son premier film en tant que réalisateur, coup d'essai, coup de maître, il dirige la jeune Sophia Loren, toujours là, dans son premier rôle important. Ce n'était pas le premier rôle de Sophia Loren, mais c'était elle, la fille formidable, du moins je l'imagine, j'avoue que je n'ai pas vu le film. La fille formidable. Ensuite, eh bien, entre 1953 et 1960, Mauro Bolognini tourne à un rythme soutenu un film par an, des films qui ne connaissent pas une grande veine critique. On voit en 1955 Les Amoureux et en 1958 Les Jeunes Maris. On voit surtout Mauro Bolognini, pardonnez-moi, collaborer avec Pier Paolo Pasolini, qui n'est pas encore réalisateur lui-même et qui donc lui apporte des scénarios, je dirais, avec ce mélange de cynisme et de naturalisme, pour faire court là encore, qui est une des marques de fabrique de Pasolini. Dans cette veine, on va d'ailleurs écouter un premier extrait d'une bande originale, celle d'un film tourné en 1960, dans les rôles principaux duquel on retrouvait Marcello lui-même, Claudia Cardinale elle-même et Pierre Brasseur, quand je vous disais le mélange France-Italie. Un film intitulé en français « Le bel Antonio », c'est à peu près la même chose, « Il bel Antonio » en italien. « Le bel Antonio », c'est Marcello, absolument magnifique sur la photographie. La musique, elle est de Piero Piccioni. J'en l'écoute, je l'écoute avec vous, mais on l'écoute. Et après, on en dit quelques mots du film dans 24 notes, secondes. Un trop court extrait, hélas, de la bande originale du Bel Antonio, un film de Mauro Bolognini, tourné en 1960. Le scénario était co-signé par Pasolini, déjà évoqué. Le roman, puisqu'il s'agit d'un roman, au départ, était de Vitaliano Brancati, une histoire assez goûteuse où l'on voyait Marcello dans le rôle du Bel Antonio, donc un homme magnifique devant lequel toutes les femmes, de quelque âge que ce soit, se pâment, et qui est bientôt marié par son père, le très autoritaire Pierre Brasseur, dans le film, à une magnifique créature, incarnée bien évidemment par Claudia Cardinale. Sauf que, eh bien, au bout d'un an, le mariage est dissous parce qu'il n'a pas été consommé. Et en fait, on découvrira plus tard que Marcello retrouvera la virilité quand son père décédera. Voyez-y sans doute un rapport, et du coup, eh bien, les choses s'arrangeront. L'occasion pour Bolognini et Pasolini de décrire la petite bourgeoisie de Catane avec tout ce qu'elle peut avoir de travers, de mesquinerie, mais le tout est très très drôle. Et je le répète, Marcello Mastroianni en 1960, eh bien, mesdames et messieurs, il les enfonce tous, les bellâtres d'aujourd'hui. Ensuite, eh bien, Mauro Bolognini poursuit sa carrière. Le Bel Antonio sera en fait sa quatrième et avant-dernière collaboration avec Pasolini, puisque Pasolini, dès 1961, tournera son premier film en tant que réalisateur. Ça s'appelait Acatone, mais ça n'empêchera pas, eh bien, ma foi, Bolognini de continuer son petit bonhomme de chemin, adaptant à plusieurs reprises, même très très souvent, des romans ou des nouvelles. On verra notamment, d'après Alberto Moravia, ça s'est passé à Rome en 1960, et d'après toujours Moravia, Agostino, tourné en 1962. Et toujours en 1962, l'homme était prolixe, eh bien, on verra un film qui s'intitulait en italien « Senilità », c'était, sauf erreur de ma part, le nom de l'héroïne, et en français, mais là, j'avoue, pour une fois, je préfère le titre français, ça s'appelle « Quand la chair succombe ». Bonjour, je voudrais deux places pour, voyez, pour le film italien. Quand la chair succombe, c'est trop beau. Un film dans lequel on retrouvait justement Claudia Cardinale et des acteurs américains. À l'époque, ça se faisait beaucoup dans le cinéma italien pour de sombres raisons fiscales, dans mon souvenir. Anthony Franciosa, Betsy Blair. Le tout était adapté d'un roman d'Italo Svevo, un romancier italien aussi connu, sauf de ma part, pour un roman qui s'appelle « La journée du scrutateur » ou « d'un scrutateur ». Et on va en écouter un petit extrait. La musique, eh bien, hasard ou pas, elle est toujours de Piero Piccioni. « Quand la chair succombe » dans 24 notes secondes uniquement. Thank you. La très belle partition de Piero Piccioni pour un extrait de la bande originale de Seniditar. Alors je vous avoue que j'ai consulté mes petites fiches pendant que nous écoutions ensemble ce morceau. Seniditar, c'est le titre du roman d'origine d'Italo Svevo, un roman très connu en Italie. Mais par contre, l'héroïne, elle s'appelle Angiolina. Alors peut-être qu'elle s'appelle Seniditar dans le roman, j'avoue que... Je l'ignore et ça n'a qu'une importance relative. Ce qui est important, c'est que la dite Angiolina, femme volage, ô combien, est interprétée avec quel brio par la délicieuse Claudia Cardinale. Et Bolognini disait que Seniditar, c'est un film qu'il voudrait refaire toute sa vie. Un peu comme un peintre peut peindre toujours le même paysage ou la même bouteille. Lui aurait voulu refaire le même film toute sa vie, ma foi, avec les contraintes de la production et le cinéma qui est... à la fois un art et une industrie, vous connaissez la musique, ça aurait sans doute été peu envisageable, quoique l'idée de broder ou de faire, je dirais, des déclinaisons différentes d'une même histoire pourrait être séduisante. En tout cas, c'était un très très beau film, une exploration, là encore, tout à fait acide de la vie de la bourgeoisie, qu'en 1953, et on va en écouter un extrait de la bande originale, eh bien... Mauro Bolognini poursuivit avec La Corruption, La Corruzione, un film dans lequel on retrouvait dans les rôles principaux Alain Cuny, plus connu comme acteur de théâtre que de cinéma, mais enfin on l'a vu entre autres au cinéma dans La Dolce Vita de Fellini, excusez du peu, et puis aussi bien avant dans Les Visiteurs du Soir, quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale. Je parle du film, pas de l'histoire qu'il raconte. Et aux côtés d'Alain Cuny, on retrouvait Rosanna Schiaffino, une magnifique actrice italienne, beaucoup moins connue ici que Sofia ou Gina Lollobrigida ou Claudia, bien sûr. Jacques Perrin, Isa Miranda, à nouveau une histoire, je dirais, de conte bourgeois, un peu à la manière du Bel Antonio, un peu à la manière de Quand la chair succombe, une histoire là encore acide et racontée avec beaucoup de brio. C'est pour ça que c'est quand même un peu injuste de qualifier Bolognini de sous Visconti. Les thématiques n'étaient pas les mêmes, l'ampleur peut-être, le lyrisme n'était pas le même. Par contre, la vérité psychologique, elle était plus proche de ce qu'elle est réellement. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale. Alors, elle n'est pas signée de Giovanni Fusco, de Piero Piccioni, pardon du lapsus. Elle est bien signée, effectivement, de Giovanni Fusco dans 24 notes secondes. La musique volontairement vulgaire et tape à l'œil de Giovanni Fusco pour un film, ce qui se passait dans le milieu de l'édition à Milan et où l'on voyait un jeune idéaliste incarné par Jacques Perrin eh bien, se fracasser avec ses idéaux contre la réalité laide et corrompue du monde incarné par son père, lui-même incarné par Alain Cuny. Un film sans concession, comme l'on dit, de Mauro Bologna, mais qui justement pour ça fut un insuccès commercial total et qui obligea le réalisateur pendant quelques années à se cantonner à des films à sketch qui étaient très à la mode dans les années 60. Ça permettait de mettre énormément de vedettes qui restaient 2-3 minutes à l'écran, mais par contre tenaient toute la place sur l'affiche. Et on vit ainsi Bolognini dans les poupées, dans les ogresses, dans les sorcières, dans le plus vieux métier du monde. Enfin, vous voyez, plutôt une thématique féminine comme genre. Ensuite, eh bien, il reprit le chemin des longs-métrages et pour égrainer très rapidement, puisque là, cette émission est déjà largement entamée, sa filmographie, sans en citer les détails, on pourra en retenir ce merveilleux automne en 1968 avec Gina Lollobrigida en initiatrice. Ma foi, c'était des fantasmes répandus dans les années 70. On pourra penser un peu moins de bien de La Grande Bourgeoise tournée en 74 avec Catherine Deneuve et, il faut l'avouer, encore moins de bien de La Dame aux Camélias, énième adaptation de Dumas avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Bon, après, c'est chacun son goût. Disons que pour moi, les Camélias avaient plus de personnalité qu'Isabelle Huppert dans le film. Voilà. C'est dit, j'arrête, on va plutôt rester et revenir en arrière et terminer avec un film qui, lui, valait quand même le détour. Un film tourné en 1975, dans les rôles principaux duquel on retrouvait à nouveau ce cher Marcello Mastroianni, avec à ses côtés eh bien, deux actrices françaises de poids, Françoise Fabian et Marthe Keller. Le film s'appelait en français « Vertige », on ne sait pas trop pourquoi, mais il faut dire que le titre italien, c'était « Accent non garanti per le antiche scale », c'est-à-dire « Par les escaliers anciens », donc peut-être ce n'est pas très très vendeur. Une histoire qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, dans un asile psychiatrique, avec évidemment tous les tours et les détours que pouvait permettre la folie enfermée en rapport avec celle du monde. En tout cas, et c'est bien le plus important de 24 notes secondes, eh bien, ce fut l'occasion pour Ennio Morricone de signer une partition absolument magistrale, une partition duale, puisque d'un côté, il y avait un de ces fameux thèmes lyriques à la Morricone, comme on en a entendu des dizaines, avec toujours autant de plaisir, mais un peu toujours le même quand même. Et puis d'un autre côté, on avait une partition atonale, d'une grande brutalité qui était à peine de la musique, mais dont je peux vous assurer, et après tout c'est ça l'intérêt premier de la musique de film, qu'avec les images de ce monde des fous, de ce monde décadent, eh bien, elle collait parfaitement. Du coup, eh bien, on en écoute un très large extrait qui va servir de conclusion à notre trop courte évocation de Mauro Bolognini, Ennio Morricone, Vertige par les escaliers anciens dans 24 notes secondes.
Thank you.
Ben, je vous avais prévenu. Hein. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci, ciao.